l'écoute de RFI, 23h30 à Paris, 22h30 à Yamoussoukro et Bamako.
Afrique Soir.
Et l'actualité africaine pour les 30 prochaines minutes. Et pour commencer, le journal. Bonsoir Zéphirin Kouadio.
Bonsoir Mathis Limano, bonsoir à toutes et à tous. À la une en Côte d'Ivoire, des proches de l'ex-premier ministre Guillaume Soro devant la justice. Au total, une quinzaine de prévenus aux côtés du commandant Abdoulaye Fofana, ancien aide de camp de Guillaume Soro, désormais un opposant en exil. Ils sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. Nous irons aussi au Mali, où les proches de l'ancien ministre de l'économie et des finances s'inquiètent de la dégradation alarmante de son état de santé. Boiré Fili Sissoko est incarcéré depuis plus de 3 ans et demi. Son avocat a déposé cet après-midi une nouvelle demande de libération provisoire pour raison médicale. Puis nouvelle vague de répression des voix dissidentes au Burkina Faso. Le président et vice-président de l'association des journalistes ont été arrêtés ce lundi matin à Ouagadougou et emmenés vers une destination inconnue. La semaine dernière, des membres de la formation politique Sens avaient subi le même sort. Et puis la mission du groupe d'experts des Nations Unies attendue à Goma finalement annulée. Annonce faite par le mouvement politico-militaire AFC M23. Ces experts devaient vérifier le respect des sanctions internationales, notamment l'embargo sur les armes et le gel des avoirs des acteurs impliqués dans le conflit dans l'est de la RDC. Enfin du football, avec la suite ce lundi de la 6e journée de la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. 8 matchs au programme. On retiendra la victoire du Burkina Faso 2-1 en Guinée-Bissau, celle de la Côte d'Ivoire et du Ghana, de la Côte d'Ivoire championne d'Afrique en titre. Et on commence donc en Côte d'Ivoire avec l'ouverture ce lundi du procès de l'ancien aide de camp de l'ex-premier ministre Guillaume Soro, aujourd'hui en exil. Face au juge, le commandant Abdoulaye Fofana et 15 autres prévenus, ils sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État et atteinte à l'ordre public. À Abidjan, compte rendu d'audience, Binta Diagne.
Le commandant Abdoulaye Fofana a rejoint la rébellion en 2002. Il devient l'aide de camp de Guillaume Soro lorsque ce dernier est premier ministre puis président de l'Assemblée nationale. En 2019, une mesure de reversement des militaires détachés auprès de Guillaume Soro est enclenchée. Abdoulaye Fofana est radié car il n'a jamais rejoint son unité, à savoir la garde présidentielle. Démarre ensuite une période d'exil. Abdoulaye Fofana s'installe en France. Au bout de quelques mois, il décide de revenir au pays. La justice l'accuse de vouloir enlever le président de la République pour renverser le gouvernement et instaurer un organe de transition. Direction d'abord le Burkina, puis Abdoulaye Fofana entre en Côte d'Ivoire par la route à Ouangoloudougou, où il rencontre un de ses présumés complices chargé de neutraliser mystiquement certaines personnalités politiques et administratives. Arrêté en juin 2022 par la gendarmerie, Abdoulaye Fofana rejette ces accusations. Le 14 avril prochain, à la reprise des débats, il pourra donner sa version des faits. Il est par ailleurs inculpé dans une seconde affaire qui se tient en parallèle. Ce militaire à la retraite est accusé d'actes terroristes et de complot contre l'autorité de l'État dans le cadre des violences électorales de 2020. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Au Mali, la santé de l'ex-ministre Boiré Fili Sissoko se dégrade de façon alarmante. L'ancienne ministre de l'économie et des finances est détenue depuis plus de 3 ans et demi. Son avocat a déposé cet après-midi une nouvelle demande de libération provisoire pour raison médicale. Boiré Fili Sissoko est poursuivi dans le cadre de l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés. Elle clame son innocence et aujourd'hui, David Baché, ses proches craignent surtout le pire pour son état de santé.
Elle aura bientôt 70 ans et croupit en prison depuis plus de 3 ans et demi. Ces dernières semaines, l'état de santé de Boiré Fili Sissoko s'est dégradé de manière rapide et alarmante, selon son avocat, qui a déposé cet après-midi une nouvelle demande de libération sous contrôle judiciaire, certificat médical à l'appui. Maître Djangina Tunkara n'a pas souhaité commenter davantage. Selon son entourage, Boiré Fili Sissoko est très mal en point. Elle souffre de drépanocytose, de problèmes cardiaques, d'hypertension et d'arthrose. Vendredi dernier, les procureurs de la Cour suprême et de la Cour d'appel, ainsi que le directeur national de l'administration pénitentiaire, se sont personnellement rendus à la prison pour femmes de Bolé, à Bamako, afin de constater par eux-mêmes son état. Accusé notamment de corruption dans les affaires de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires surfacturés, l'ex-ministre a toujours demandé à être jugé pour, selon elle, prouver son innocence. Il y a tout juste 3 ans, c'est dans le cadre de la même procédure que l'ancien premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga était mort en détention. Les autorités maliennes de transition s'étaient opposées à son évacuation sanitaire en dépit des recommandations médicales.
David Bachet, puis l'enlèvement de 2 journalistes ce lundi au Burkina Faso. Il s'agit du président et du vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Tous les deux embarqués ce matin à Ouagadougou, sans mandat, par des hommes disant appartenir au service de renseignement burkinabé. Les 2 journalistes ont été emmenés vers une destination inconnue. Ces nouvelles disparitions s'ajoutent à celles de la semaine dernière au sein du mouvement politique Sens. Et tous ces enlèvements concernent surtout des personnalités perçues comme des voix critiques du capitaine Ibrahim Traoré, patron de la junte au pouvoir. Le récit de Sidi Yansani.
Ce matin, les disparitions ont eu lieu au Centre National de Presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Elles visaient Guezouma Sanogo et Boukari Ouoba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Il y a 3 jours, l'AJB tenait un congrès extraordinaire pour élire son nouveau bureau national. À la clôture de la réunion, le président Guezouma Sanogo a dénoncé des atteintes à la liberté d'expression jamais égalées depuis le putsch du capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu'une totale mainmise de la junte du président de transition sur les médias publics RTB et AIB, devenus ses principaux outils de propagande la semaine dernière sur le mouvement politique Sens, qui subissait une série d'arrestations sans motif ni mandat. D'abord, son secrétaire national Idrissa Barry, emmené par des hommes en civil se présentant comme des gendarmes. Et ce week-end, c'était au tour de 4 de ses camarades emmenés vers une destination inconnue, a expliqué Sens dans un communiqué. Juste avant ses disparitions, le mouvement dénonçait les massacres récents de Peul à Solenzo dans l'ouest du pays, massacre attribué à l'armée burkinabé et ses supplétifs VDP.
Sidi Yansané. Une mission du groupe d'experts des Nations Unies mandatée par le Conseil de sécurité devait séjourner à Goma cette semaine. Mission finalement annulée. Ce groupe est chargé de vérifier le respect des sanctions internationales sur le territoire congolais, notamment l'embargo sur les armes, le gel des avoirs ou encore les interdictions de voyage visant certains groupes armés et d'autres acteurs impliqués dans le conflit. C'est le mouvement politico-militaire AFC M23 qui a annoncé la de la mission dans un bref communiqué publié ce week-end. Une décision unilatérale selon plusieurs sources, Patient Ligaudi.
C'est un message tombé au dernier moment, laconique, sans justification précise, si ce n'est la transmutation d'agenda évoquée par l'AFC M23. Le communiqué est arrivé alors que la délégation onusienne était déjà en route pour Kigali, dernière étape avant de rejoindre Goma. Cette mission devait pourtant aborder des sujets sensibles. D'abord, les revendications politiques de l'AFC M23 et les conditions d'un éventuel cessez-le-feu humanitaire. Autre dossier sur la table, les récentes arrestations de combattants des FDLR et d'autres groupes armés dans les régions sous contrôle de l'AFC M23. Certains de ces éléments ont été remis aux autorités rwandaises. Selon les informations des RFI, les experts de l'ONU s'intéressaient aussi au statut des militaires congolais, des policiers et même des groupes armés qui se sont rendus après les affrontements. Et autre sujet délicat, la gestion des ressources naturelles. Des questions devaient être posées sur la production, la commercialisation et l'exportation des minerais dans les zones contrôlées par l'AFC M23, notamment à Rubaya. Les experts voulaient savoir aussi quelles mesures sont mises en place pour éviter que des minerais interdits ou non traçables n'entrent dans les circuits commerciaux internationaux.
Passion Ligaudi. Et puis un mot de la rencontre entre le président mozambicain Daniel Chapo et l'opposant Venancio Mondlane. C'était dimanche soir à Maputo. Rencontre qui intervient plus de 6 mois après les élections générales contestées du 9 octobre. L'opposant Venancio Mondlane continue d'ailleurs de revendiquer sa victoire à la présidentielle et le pays reste toujours sous tension. Ce lundi soir, les 2 hommes ont fait le point sur leur rencontre. Correspondance régionale, Gaël Alex.
Une rencontre cordiale, civile et fluide. C'est ainsi que Venancio Mondlane a qualifié ses échanges avec Daniel Chapo. Dans une vidéo sur Facebook, l'opposant affirme qu'un accord a été trouvé sur 3 points majeurs. D'abord, la fin de la violence, qu'elle soit perpétrée par l'État ou bien nos partisans à l'encontre de la police et de ceux qui ne pensent pas comme nous, précise l'opposant. Ensuite, des soins gratuits et des indemnisations pour les victimes de la crise post-électorale ainsi que leurs familles. Enfin, la libération des manifestants arrêtés. De son côté, Daniel Chapu a déclaré qu'il fallait mettre un terme à la violence lors d'un déplacement à Lichinga dans le nord du pays. Le président rappelle qu'il est bon de penser différemment. Afin d'en finir avec les crises post-électorales, il promet également d'étudier de possibles modifications de la loi électorale. Cette rencontre suscite en tout cas de l'espoir du côté des entrepreneurs mozambicains. Agostinho Vuma, président de la Confédération des associations économiques du Mozambique, espère qu'elle aboutira à un pacte pour la stabilisation du pays. Gael Lalex, Nairobi, RFI.
Ce lundi, l'armée soudanaise a bombardé une base de l'armée d'opposition près de Djouba, la capitale. Le directeur de l'organisation de la société civile, Edmond Yakani, appelle les dirigeants sud-soudanais au dialogue alors que les tensions se multiplient entre forces gouvernementales et forces d'opposition dans plusieurs régions du pays depuis le début de l'année, faisant craindre un retour de la guerre civile.
RFI à Fianarantsoa, 92 FM.
Le gouvernement malgache se prêterait-il à un exercice de transparence au sujet de la vanille? En tout cas, certains veulent y croire. La semaine dernière, le Conseil des ministres a publié des chiffres sur la filière et ils ne sont pas très bons. 2000 tonnes de surstock, dont la moitié est basée à l'étranger, pour une demande mondiale estimée à environ 3000 tonnes l'année dernière. L'offre en gousse noire malgache s'annonce colossale cette année, bien au-dessus de la demande mondiale. La vanille préparée pourrait-elle s'échanger à 20 dollars le kilo quand elle flirtait avec les 700 dollars en 2018. Pour réduire les effets de ces fluctuations, les autorités ont donc annoncé des mesures. Les précisions de Sarah Teto.
Depuis 5 ans, le gouvernement promet un assainissement de sa filière phare. La liste très attendue des exportateurs agréés pour cette nouvelle saison est censée évincer les opérateurs qui n'ont pas respecté les règles du jeu lors des précédentes campagnes. Dans les tuyaux également, un prix plus juste payé aux planteurs. En 2019, le tarif de 50 000 arrières le kilo de vanille verte avait fait consensus entre le SVI, le lobby des acheteurs internationaux de la vanille, et les acteurs malgaches. Aujourd'hui, dans les campagnes, les prix annoncés aux planteurs sont plutôt autour des 3 000 arrières, moins de 1 dollar.
Payer 3 000 arrières est indécent.
Georges Gerhardt est le président du groupement des exportateurs de vanille de Madagascar.
C'est moins que les tomates, alors qu'on a affaire à un produit qui nécessite beaucoup de soins et des années d'attente avant de produire. Donc, pour le bien de la filière et son futur développement, il faut absolument redresser ce prix minimum qui a déjà fait l'objet de nombreuses études et sur lequel beaucoup de gens s'accordent.
Rassurer les marchés sur la qualité intrinsèque du produit et sa durabilité, voilà la stratégie adoptée en ce moment par Madagascar. Mais il faut aller encore plus loin, soutient Georges Gerhardt.
Il y a un travail à faire sur des marchés émergents. L'Asie, le Moyen-Orient pourraient être intéressés par le produit vanille et sur ces deux axes, il faut absolument travailler.
Fin avril, un symposium international sur la vanille sera organisé à New York. À la une des discussions, un grand état des lieux du secteur. Aucun malgache n'a été invité. Malgré les soubresauts dans la filière, la grande île reste le premier producteur mondial de l'épice. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
RFI, 22h43 en temps universel. Et retour sur le sommet de l'organisation du génome humain qui s'est tenu ce mois-ci à Durban en Afrique du Sud. Une première sur le continent, l'occasion de mettre en lumière le manque de données existantes autour de la diversité du patrimoine génétique des populations africaines. Rappelons qu'à ce jour, la plupart des recherches et des séquençages sont réalisés en Europe et aux États-Unis. C'est un sujet signé Claire Bargelès.
Nous tous, humains, formons une seule espèce et partageons à plus de 99,9% le même génome. Mais les quelques variations restantes, qui ont eu lieu au cours des millénaires, peuvent avoir une grande influence sur notre santé. Et comme les indices des découvertes scientifiques indiquent que les premiers hommes sont originaires d'Afrique et que seule une partie d'entre eux a ensuite peuplé le reste du monde, les gènes des différentes populations restées sur le continent renferment encore beaucoup de secrets pour l'ensemble de l'humanité. Selon la pédiatre et présidente de la Human Genome Organization, Ada Amosh, on ignore encore presque tout de leur variété.
La diversité génomique à l'intérieur de l'Afrique n'est pas du même ordre de grandeur que pour le reste du monde. En termes de groupes ethniques, de clans, etc., il y a beaucoup plus de diversité sur ce continent que partout ailleurs. On aurait énormément à apprendre si on séquençait davantage les gènes des populations africaines.
Et pourtant, ces variations ne sont quasiment pas analysées, avec moins de 2% des génomes séquencés mondialement appartenant à des populations africaines. Après des études en Ouganda, Christopher Kinney Johnson, tout travaille désormais sur ces questions à l'université Queen Mary de Londres.
Ces études ont été historiquement réalisées sur des populations d'origine européenne et ce n'est pas surprenant, car cela demande beaucoup de temps, d'argent et de ressources que l'on n'a pas forcément à disposition en Afrique. Donc cela signifie qu'il faut qu'on en fasse plus en tant que scientifique.
Même sur le continent, les recherches sont inégales, avec beaucoup de travaux effectués en Afrique du Sud. Dans des pays comme la RDC, les études sont balbutiantes, regrette Aimé Lumaka, professeur de génétique à l'université de Kinshasa.
En RDC, c'est un pays où on a un grand potentiel génétique, mais où on a très peu de main-d'œuvre. Pour le moment, on n'a qu'un seul centre de génétique qui est basé à l'université de Kinshasa. Et le personnel qu'il y a dans le centre de génétique n'est pas encore suffisant pour ne fût-ce que répondre aux besoins dans la ville de Kinshasa, malheureusement.
Les séquençages effectués par exemple aux États-Unis ou au Royaume-Uni contiennent bien des données issues des diasporas africaines, mais elles ne sont pas représentatives de l'ensemble du continent et des effets de l'environnement. Claire Bargelès, de retour de Durban, RFI.
Malgré de grandes avancées, hein, plus de 20 ans après le premier décryptage complet d'un génome humain, les populations africaines représentent moins de 2% des génomes séquencés, un biais que le chercheur Ambroise Roncalme dénonce depuis plusieurs années. Le président de la Société africaine de génétique humaine était justement au sommet de Durban. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Réponse d'Ambroise Roncalme au micro de Claire Bargelès.
Ce qu'on en sait, c'est que c'est une immense bibliothèque de 23 paires d'étagères que nous appelons techniquement les chromosomes. Et dans ces chromosomes-là, il y a 20 000 paires de livres que nous appelons gènes. Et dans ces gènes, il y a des lettres que nous appelons nucléotides, on en a 3 milliards. Nous savons que dans ces 3 milliards de nucléotides, il y a seulement 2% qui représentent ces livres que nous appelons gènes, qui codent pour les protéines. Nous savons également que toutes les populations humaines viennent du continent africain.
Et donc, que sait-on des variations de ce génome chez les populations restées sur le continent ?
Justement, on n'en sait pas grand-chose. C'est que nous connaissons des lettres de l'alphabet de notre génome. Jusqu'à 98%, ce sont les variations des populations en général européennes. Les programmes de séquençage des génomes jusqu'à présent, ce sont des programmes nationaux. L'un des plus illustres, c'est le UK Biobank, qui a séquencé plus de 500 000 à ce jour populations d'origine britannique. Ces pays-là, ce sont les pays que nous disons à ressources élevées. Et dans ces cas-là, ce sont les pays européens ou américains. Conséquemment, jusqu'à présent, les représentations des populations d'origine européenne est largement plus disproportionnellement représentée par rapport à ce que nous souhaiterons voir. Ça veut dire qu'une bonne partie des variants génétiques qui sont dans les populations africaines d'aujourd'hui, nous n'en connaissons rien parce qu'en fait, ils n'ont jamais quitté le continent.
En pointant du doigt les différences au niveau du continent africain, est-ce qu'il n'y a pas un risque de réveiller les vieux démons du racisme ?
Absolument pas. Et je pense qu'on a tous un intérêt scientifique de connaître la diversité génétique africaine. Premièrement, on est tous africains, donc c'est la raison ancestrale. Il y a des parties de notre génome qui ne sont pas encore bien connues, que nous appelons par exemple les parties fantômes du génome. Ce sont des parties en fait que nous avons héritées de certaines populations humanoïdes qui n'ont jamais quitté le continent. La deuxième raison, c'est l'écologie du continent africain qui est radicalement différente de l'écologie du continent européen ou asiatique. Le continent africain a une orientation nord-sud et cet axe nord-sud permet d'avoir une diversité environnementale du Caire à Cape Town et au milieu on a la forêt équatoriale. Chaque fois qu'on a une diversité environnementale, cela met la pression sur notre génome et notre génome est modifié. Plus vous avez de diversité environnementale, plus vous avez une diversité en infections et les infections également modifient notre génome au cours du temps.
Et si on n'a pas suffisamment de données sur toutes les populations, elles se retrouvent exclues des avancées de la médecine ?
Absolument. Il y a également la raison d'équité. Si nous ne connaissons pas, par exemple, les gènes qui sont les plus importants en termes de diagnostic génétique des maladies génétiques des populations africaines, il est impossible pour moi, en tant que médecin généticien, de soigner un enfant africain de la même façon que je soigne un enfant européen. Il y a très longtemps, je vivais et travaillais en Suisse. Si je vois un enfant suisse, européen, qui est né avec une surdité, en testant un seul gène, dans 50% de cas, je résous la question de l'origine de la surdité. Lorsque je suis retourné sur le continent africain, j'ai testé des enfants camerounais ou des enfants sud-africains noirs. 0% de ces enfants n'avaient des mutations dans ces gènes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle l'un des axes de recherche aujourd'hui pour moi, c'est de retrouver des gènes qui sont relevants pour la surdité dans la population africaine.
Et puis on peut dire que se priver de ces données, c'est ralentir la recherche mondiale puisqu'elles contiennent des réponses pour l'ensemble de l'humanité.
Je vais vous donner un exemple typique. Il y a un gène qui a des variants qui sont représentés dans les populations africaines 200 fois plus que dans les populations européennes. Et nous savons que ces variants sont associés à une réduction du taux de cholestérol de plus de 40% si vous comparez un Africain et non un Africain vivant dans le même environnement. Et cette connaissance a permis de développer au moins 3 médicaments pour lutter contre le taux de cholestérol élevé. Sans étudier la population africaine, ces médicaments n'auraient pas été développés.
Cependant, sur le continent, la priorité est plutôt mise sur les maladies infectieuses comme le paludisme ou le sida et le séquençage des virus plus que le séquençage du génome humain.
Oui, c'est une priorité logique, mais je dois aussi dire que la crise du Covid nous a montré que les laboratoires de génétique, ce n'est pas seulement pour les maladies rares. Avec les mêmes équipements, vous détectez les virus de l'hépatite virale, vous détectez les virus du HIV, et ça permet également d'étendre en fait l'utilisation de la technologie génétique. Donc ce n'est pas seulement pour les maladies rares humaines, mais ça peut être aussi utilisé pour les maladies infectieuses.
Voilà, le chercheur Ambroise Wankam, président de la Société africaine de génétique humaine, au micro de Claire Bargelès, pour ce dossier consacré à la recherche génomique africaine. Allez, à présent, place au sport avec du football et la suite ce lundi de la 6e journée de la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. 8 matchs au programme. On notera le bien, pas le résultat nul du Mali face à la Centrafrique, 0-0. La victoire du Burkina Faso, 2-1 en Guinée-Bissau. Et victoire aussi, Olivier Pron, du Ghana et de la Côte d'Ivoire.
Tout petit, le champion d'Afrique, mais vainqueur à Abidjan de la Gambie, 1-0, un but de Sébastien Allaire dès la 15e minute, le deuxième de ses qualifications pour l'attaquant d'Utrecht, 1-0 au quart d'heure de jeu donc, et puis plus rien, ou presque, pour les éléphants, 5 frappes dans tout le match, 3 cadrés seulement. Les scorpions gambiens, bien plus entreprenants notamment en fin de rencontre, sont passés tout près de l'égalisation. Mais l'essentiel est fait pour Emers Faye et ses troupes qui, avec 16 points, repassent d'une longueur devant le Gabon en tête du groupe F. Les autres sélections de cette poule semblent trop loin à 4 journées de la fin pour espérer désormais se mêler à la lutte pour la qualification. Le mondial américain, les Ghanéens peuvent sérieusement commencer à l'envisager. 5e victoire en 6 matchs pour les Black Stars, 3-0 face à Madagascar qui les recevait à Al Hoceima au Maroc, doublé de Partey, le gunner, 3e but signé Mohamed Koudous. Le Ghana largement en tête du groupe I avec 15 points, les Comores pourraient revenir à 3 longueurs en cas de victoire ce mardi face au Tchad.
Olivier Pron est noté aussi Comores-Tchad, l'un des 15 matchs programmés ce mardi en clôture de cette 6e journée de la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et puis le Mali, on vous le disait un peu plus tôt, a buté aujourd'hui sur la Centrafrique 0-0 dans un match délocalisé au stade de l'Arbizaouli de Casablanca au Maroc. Malgré un match largement dominé, hein, une multitude d'occasions nettes, les protégés de Tom Saintfit n'enchaînent pas et pointent à la 3e place du groupe I, à 6 points du leader ghanéen qui a un match en moins. Les chances de se qualifier directement pour le Mondial 2026 s'amenuisent, mais le sélectionneur belge des Aigles est satisfait du comportement de son équipe. Écoutez.
C'est vraiment pas le résultat qu'on veut. Avant, on a dit on a besoin de gagner chaque match qu'on veut se qualifier. On a joué un bon match contre Comores et aujourd'hui on a bien joué. Hein. On a presque 70% en possession de ballon. On a créé 13 occasions et Centrafrique seulement 1. Mais on n'a pas marqué. Je suis fier de mon équipe. C'est le football. Maintenant, on doit penser pour le futur. On doit travailler ensemble pour les derniers 4 matchs. Et on veut jouer chaque match pour la victoire comme avant.
Voilà la satisfaction donc de Tom Saintfit, le sélectionneur belge des Aigles. Il est 23h et bientôt 54 minutes en temps universel. C'est Radio France Internationale que vous écoutez. Dare, 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 dare. Et on accueille Franck Baudin de la rédaction web de RFI pour un tour de l'actualité musicale. Bonsoir Franck.
Et bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous.
Qu'avez-vous dans votre sélection ce soir?
Alors je vous propose de commencer avec un artiste qui nous vient du Rwanda. Il a tout juste 31 ans, il est chanteur, danseur, chorégraphe et il s'appelle Impakanizi. Voici le titre Ingabe sorti sur son premier EP l'an passé. Écoutez comme c'est délicat. Usa nira sheneza musechewe ya ningirirenga ryachewe ningiriya irijeshu Rwanda.
Impakanizi, un titre qui invite au voyage, qui reste très délicat. Alors comment avez-vous découvert cet artiste, Franck ?
Alors, Impakanizi, c'est un mot sorti des traditions poétiques ancestrales. On l'utilise pour décrire un personnage rebelle, prêt à parcourir le monde et à en affronter les dangers. C'est notre journaliste Anne-Laure Lemancel qui nous a ramené cette belle découverte lors d'un voyage au Rwanda. Et elle a dressé le portrait de l'artiste pour notre site internet.
Jésus nasci la Belén, a mi la ciudad.
Et on passe du Rwanda au Cap-Vert. Vous écoutez la chanteuse Mayra Andrade et son titre Limitation, version très épurée de la chanteuse capverdienne, Franck.
Ah oui, c'est une chanson de son projet Reencanto, sorti l'an passé. Reencanto, ça veut dire réenchanter et pour cause, c'est un disque de ses propres chansons revisitées dans une configuration minimaliste en guitare-voix. Je vous en parle parce que Mayra Andrade était il y a quelques jours en concert près de Paris pour nous partager ses bonnes ondes et c'est encore une fois Anne-Laure Lemancel qui s'est chargée de nous raconter ce moment dans un superbe reportage.
Anne-Laure Lemancel qu'on remercie évidemment beaucoup. Changement d'ambiance, on prend la direction de la Guinée. Et c'est bien la voix de Jupiter Davaib qu'on entend là.
Oui, c'est exactement ça, Zéphirin, le chanteur guinéen qui a sorti son dernier album Fabelan chapitre 2 il y a quelques semaines. Un disque de 14 titres sur lequel vous retrouvez ce titre onanier que l'on entend en ce moment, mais aussi des collaborations avec Takana Zion, Hiro ou Psun. Vous avez l'air de connaître cet artiste, Zéphirin.
Et oui, effectivement, DJ Facemaker nous en avait déjà parlé ici même dans Afrique Soir.
Quand il s'agit d'Afropop, c'est très difficile d'arriver avant DJ Facemaker, mais vous savez qu'il ne fait pas qu'ambiancer Afrique Soir. Il écrit aussi des interviews comme celle de Jupiter Davaib que l'on retrouve sur notre site internet rfi.fr/musique et avec tous nos autres contenus musicaux.
Merci Franck Baudin pour ce tour en musique et on écoute Jupiter Davaib et son titre Onanier.
Maman, tes désirs ce soir sont les ordres. Bien que je te donne de l'or. Chérie Coco,
extrait de Fabelan, chapitre 2, extrait du dernier album du chanteur guinéen Jupiter Davai. Il a récemment accordé une interview à Hervé Mondina, alias DJ Facemaker, entretien à retrouver sur notre site internet rfi.fr/musique. Pour l'heure, on arrive au terme de cette édition d'Afrique Soir réalisée par Raphaël Lalizier, rédactrice en chef Sabine Mélé, attachée d'édition Simon Bulbaudin. Merci à eux, bien sûr. Et merci de votre attention. Restez à l'écoute dans 30 secondes. Un nouveau journal sur la Radio Mondiale.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.